RCC, l'ITV Calvez, animé par François Colombani. François, bonjour.
Bonjour, bonjour chers auditeurs. Alors aujourd'hui dans l'interview Calvez, je reçois la déboulonnable, l'inamovible maire de Calvi, Ange Santigne, fraîchement réélu. Alors, Ange, pour les quelques-uns qui savent pas, c'est le maire de Calvi, ancien président de l'exécutif, propriétaire d'un camping bien connu. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation et de venir essuyer un petit peu les plâtres. Première question, comment vas-tu ?
Ben écoute, je vais très bien. Et merci de m'avoir invité. Merci pour cette initiative et cette nouvelle émission dont tu prends le soin d'animer. Et je suis là, naturellement, pour répondre sans tabou aux questions que tu voudrais bien me poser.
Alors, juste un petit mot, puisqu'on commence, un petit mot sur cette période assez compliquée qui nous frappe tous, ce Covid qui a un peu affecté la rentrée scolaire, qui a un peu, avec ces nouvelles réglementations, qui a affecté la saison. En plus, c'est compliqué. Toi, tu es élu le 15 mars. Lendemain, confinement. On se dit quoi quand on est le maire de Calvi ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête ?
Bon, d'abord, dans ce cas précis à Calvi, tant pour moi-même que pour l'équipe municipale, c'est sans doute le cas le plus simple à gérer, puisque c'est une municipalité sortante qui est réélue, et ce, dès le premier tour. Donc, il y a la continuité de l'action municipale, comme il y a la continuité de l'action de l'État. La difficulté, c'est dans d'autres communes, soit parce que le maire ne se représentait plus, et donc il n'y avait pas le suivi des affaires. Il a dû assumer, malgré tout, pendant 2 mois à 3 mois, les difficultés liées à la pandémie, soit, le cas extrême, le maire candidat a été battu, et pour autant, son équipe municipale et lui-même ont dû faire face à la pandémie. Ceci étant, on s'attendait effectivement, même quelques jours avant les élections, que quelques mesures soient prises. Pas forcément le confinement total, ce qui a été le cas, je pense qu'à Calvi, nous l'avons géré correctement, en liaison avec le sous-préfet, en liaison avec les forces de gendarmerie, avec la mobilisation du personnel communal, et puis avec des élus impliqués dans certains secteurs. Je pense notamment à notre amie Hélène Astolf, qui était déjà l'adjointe déléguée aux affaires sociales et qui a dû faire face pendant 2 mois et demi à 3 mois aux difficultés liées à la précarité venant se rajouter à la pandémie, ou encore à Sandra Vautier, élue mais pas encore installée, qui m'a beaucoup conseillé dans ces moments compliqués, notamment lorsqu'il s'est agi de l'ouverture ou pas des écoles, la décision ayant été prise de manière collégiale avec à la fois les représentants des parents d'élèves et les directeurs d'école. Voilà, donc période compliquée, mais objectivement gérer correctement, du mieux possible en fonction de nos moyens. Et puis on peut se féliciter qu'à Calvi, en tout cas jusqu'à ce jour, l'avenir c'est autre chose, ben nous n'ayons pas eu de grosses difficultés et pas eu cette pandémie qui a fait du mal parmi nos concitoyens, notamment parmi les plus fragiles. Mais je veux quand même rappeler qu'il faut faire très attention, qu'il faut continuer à se protéger, qu'il faut continuer à appliquer les gestes barrières, parce qu'on a tendance à se dire que ça n'arrive qu'aux autres. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et nous avons des cas, si ça n'est pas à Calvi même, dans les villages environnants, qui nous montrent qu'il faut être très vigilant, et ce, sans doute, pendant de longs mois.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vite représenter aux auditeurs le principe de l'émission. Donc, elle n'a rien de politique, même si, du fait de ta carrière, on va revenir un petit peu sur certaines choses. Donc, désolé pour les amateurs de joutes verbales ou de débats. Je laisse ça aux personnes soi-disant habilitées qui auront toute la liberté de le faire. Un bisou à Corse matin. Et donc, une fois par semaine, j'inviterai un Calvet à parler de son parcours, de son Calvi, de sa vision de Calvi, de son activité, ses projets. Et je vais essayer d'en savoir un petit peu plus sur la personnalité, les passions, les activités, et grappiller quelques indiscrétions. Donc, Ange, 61 ans. Depuis le 10 juin dernier, donc Gémeaux, ton Calvi, le Calvi de ton enfance, dans les années 60.
Oui.
C'est quoi ton souvenir?
Ah, ben j'ai plein de souvenirs, puisque, donc je suis né à Calvi, c'est le docteur Aurabonne, qui a procédé à ma naissance, à ma mise au monde.
Comme à de nombreux
Calvi. Comme dans le Calvi, aux 4 rue Clémenceau. Et j'ai des souvenirs naturellement prégnants d'amis, de joutes sportives, de quelques bagarres aussi entre nous, comme tout gamin. Mais mon Calvi, c'est la rue Clémenceau, c'est la rue Joffre, c'est avant qu'il y ait le port de plaisance, Skoïevourtchi, c'est la glacière, c'est cet endroit, c'est le petit jardin, c'est la gare. Voilà, c'est ce théâtre-là de nos premiers exploits entre amis avec des amis qui étaient aux alentours, hein, soit rue Joffre, soit rue Clémenceau. Voilà, c'était un Calvi qui était encore un gros village qui s'ouvrait progressivement, 1960, 62, 65, progressivement vers le tourisme, avec le Corsetel, la création et l'ouverture en grande pompe du Grand Hôtel dans les années 64, 65, à un an près, je crois que c'est cette période-là. Et donc, ce sont des souvenirs. Mais je crois que quelque part, lorsqu'on arrive à la soixantaine et qu'on sait qu'il y a moins de chemin à parcourir que ce qui est parcouru, nous avons toutes et tous la nostalgie du passé.
Voilà,
on trouvera personne qui dira ah c'est mieux aujourd'hui que ça n'était avant.
Est-ce que c'était mieux avant?
Alors avant nous étions beaucoup plus jeunes, nous étions gamins, nous étions insouciants, n'avions pas de responsabilité, pas de charge de famille. Donc cette période-là, oui, on est toujours mieux. Après, est-ce que 60 ans plus tard, on va se dire que la société n'a pas évolué? Elle a évolué, bien sûr, avec des côtés négatifs, mais aussi avec des côtés positifs, notamment en matière médicale, en matière de protection de la santé, en matière de protection sociale, en matière de droit du travail. Donc on peut dire que ces 60 dernières années, elles ont quand même apporté une certaine sécurité, une certaine égalité, même si rien n'est parfait, naturellement, à notre société.
Alors, l'élève en Chantilly, comment il était ?
C'était un élève plutôt bon, plutôt sérieux, qui, notamment, s'agissant de Calvi et du collège, a passé sans encombre ses différentes étapes, qui a commencé à se dissiper au lycée, puisque là, c'était déjà une petite liberté
qui nous était
donnée.
Oui, parce que le lycée
n'est
pas encore le lycée
absolument.
Parrain, donc du coup,
absolument.
C'était délocalisation à Bastia.
Délocalisation à Bastia. Belle époque aussi, voilà, une très belle époque qui nous a permis de faire beaucoup de connaissances, d'abord de se confronter à d'autres jeunes gens et jeunes filles qui n'étaient pas issus uniquement de Calvi, hein, et pas que de la Balagne, hein, des quatre coins, notamment de la Haute-Corse. Bon, on a noué et gardé tout au fil du temps des relations absolument amicales, pour ne pas dire affectueuses, avec un certain nombre de ces élèves-là de l'époque. Et puis avec un échec au bac la première année.
Ah,
ben oui, bien sûr. Comme quoi, il ne faut pas désespérer. Bon, pour le raison toute simple, c'est que lorsqu'on ne travaille pas l'année du bac, c'est difficile, sans doute encore plus hier qu'aujourd'hui, hein, de pouvoir l'obtenir. Nous étions plus préoccupés, en plus j'avais un an d'avance, donc nous étions à l'époque, hein, après je l'ai perdu mais c'est pas grave, nous étions plus préoccupés par nos sorties, par nos amusements, il y a prescription je peux le dire. Il arrivait des soirs où il y avait plus d'internes dehors qu'au dortoir, avec la complicité de certains pions qui n'avaient guère plus que 3 ou 4 ans ou 5 ans de plus que nous. Donc c'est une belle époque aussi. Ce qui m'avait fait dire à mes parents à l'approche du résultat la première année, qu'est-ce que vous attendez? Ah, belle bac, ne nous faites aucune illusion. Je pense pas que cette année, on sabrera la champagne. Ma mère m'avait regardé interloqué en se disant, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je lui avais expliqué que bon, nous étions un certain nombre de calvés et de calvés, notamment de calvés, parce que l'internat n'était pas mixte, hein. On retrouvait les filles pendant les cours, mais pas pendant le Marbeuf, Jocan de Casamianque, c'était que les garçons. Voilà, donc je les avais préparés à l'échec. Après, je me suis rattrapé la seconde année quand même. Il fallait avoir le bac quand même pour continuer.
Donc, bac acquis, direction Montpellier, où là, c'est la fac de droit.
Oui. Alors, la fac de droit et Montpellier, pour deux raisons. Bon, la première, parce que, fort de l'expérience bastiaise, nous étions tous retrouvés. Bon, je m'étais dit à un moment donné, partir sur le continent, les choses sérieuses commencent. C'est de l'argent dépensé pour les parents. Il faut peut-être se prémunir de tout égarement prévisible, hein, en retrouvant celles et ceux que nous avions fréquentés pendant 3-4 ans. Donc ça, il fallait, si possible, hein, éviter Nice ou Aix ou Marseille. Bien que, hein, il y ait de belles réussites, naturellement, pour mes amis.
Alors, qui
ont été, et Montpellier, parce que simplement, j'y avais, et j'y ai encore, de la famille, notamment la sœur de ma mère qui va sur ses 96 ans, deux cousins germains qui ont fait leur vie bien sûr, et je n'ai pas habité avec eux bien sûr, hein, mais j'avais mon studio indépendant. Mais lorsqu'on part un peu seul comme ça sur le continent à 18 ans, sans amis particuliers dans la ville que l'on rejoint, c'était bien de choisir aussi une ville où il y avait de la famille pour se voir le week-end de temps en temps. Je dois dire d'ailleurs de moins en moins au fil des années qui sont écoulées.
Et comment tu as vécu du coup, parce que en fait c'est l'histoire de beaucoup d'élèves insulaires. C'est-à-dire cet éloignement, ce départ, est-ce que c'est violent? Est-ce que tu l'as vécu de manière assez violente ou du fait de la proximité de la famille, tu l'as vécu plus facilement?
Alors je dirais que c'était beaucoup plus difficile pour mes parents, et notamment pour ma mère, parce que, il faut le préciser, mais beaucoup le savent, je suis fils unique. Alors, voir partir son fils unique de l'autre côté de la Méditerranée, c'est pas évident. Il n'y avait pas de téléphone portable. Il était convenu de s'appeler deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Et naturellement, si j'oubliais ou que j'avais autre chose à faire le mercredi, c'était presque une heure après le drame. La famille était avisée, on n'a pas de nouvelles d'Ange, etc. Mais moi, à titre personnel, non. J'avais 18 ans. Je crois qu'il est bien, à un moment donné, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, hein, de se forger un caractère, un esprit, aussi indépendamment de la famille. J'avais ce relais, cette famille, naturellement, qui au départ m'a aidé, puisqu'encore une fois, je n'avais pas mes repères, je ne connaissais pas beaucoup de monde à Montpellier. Puis après, au fil du temps, dans le milieu étudiant, on se fait rapidement des amis. Ils étaient là, j'allais les voir au moins une fois par semaine, mais j'ai vécu ma vie d'étudiant tranquillement.
Alors, est-ce que c'est là que se forge un petit peu les prémices de ton parcours politique?
Non.
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 Pas du tout.
Non. Non. Ça date de bien avant.
Ah.
Voilà. Alors, c'est une anecdote, mais je pense qu'elle est, c'est la réalité de la situation. Ma mère, qui va sur ses 94 ans, a été pendant 25 ans secrétaire de mairie. Elle a fini sa carrière en 1972, après sa retraite, après 25 ans, 73. Et donc, quand j'étais gamin, 59, 60, etc., quand j'ai commencé à fréquenter l'école maternelle d'abord, les écoles maternelles à l'époque étaient là où se situent les écoles primaires. Bien. Et donc, à l'issue de la fin des cours, matin ou après-midi, j'allais en mairie. Bien. J'ai à ce stade-là rencontré, apprécié amicalement et affectueusement le docteur Rabonne, puisque c'était le maire de l'époque, puis après Xavier Colonne, etc. Donc, je pense que j'ai un peu baigné dans cette ambiance. Voilà.
De tout petit,
un peu dans la marmite, puisque aussi loin que remonte ma mémoire, il n'y a pas d'antécédent et pas d'homme politique dans ma famille. Bon, on peut pas dire, hein, Gilles est le fils d'eux, qui a été maire, qui a été conseiller général, voire plus, pas du tout, ce qui n'est pas du tout une critique, mais on peut pas trouver là, en tout cas, l'explication. Et mes amis intimes me rappelaient, bon, maintenant moins, mais quand j'ai été maire de Calvi, que c'était un peu mon souhait. Voilà, en disant, mais même quand tu étais ado, tu t'intéressais à la politique, et on sentait que tu avais envie de faire quelque chose. Et je dis souvent que jamais je n'aurais envisagé d'être élu ailleurs qu'à Calvi. Ce qui m'intéressait, c'était la ville de Calvi, et sûrement pas une carrière politique qui aurait pu se dessiner ailleurs, y compris, et souvent quand ça se passait dans le passé, sous forme de parachutage.
Alors, d'ailleurs, l'engagement est... Et c'est très tôt, puisque je crois que c'est en 83 que tu es élu la première fois conseiller municipal.
Absolument. J'ai été en 1983 sur la liste de Xavier Colonne. Mais c'est un petit peu ce que j'évoquais, docteur Orabone, quand j'étais tout gamin. L'ami de la famille, Xavier Colonne, quand j'étais ado et jeune et jeune adulte, puisque la maison parentale, la mienne, et celle de monsieur et madame Colonne sont distantes de 50 mètres, hein. Et puis ma mère et madame Colonne, qui est d'ailleurs notre centenaire, je le précise, hein, et qui va sur ses 101 ans, et nous y sommes naturellement, hein, une bonne santé, étaient amis d'enfance, sont amis d'enfance, et donc ça a sans doute facilité les choses. Et je terminais mes études, hein, puisque j'ai eu ma maîtrise, à l'époque c'était une maîtrise, ma maîtrise de droit. Et, c'est une anecdote, mais je m'étais rattrapé par rapport au coup que j'avais fait à mes parents, parce que j'étais sorti second de ma promotion à Montpellier, avec mention bien. Je suis revenu à Calvi, fils unique, pour reprendre un peu les affaires familiales aux côtés de mon père. Et en même temps, l'opportunité, c'était la coïncidence des chronologiques. En 83, j'ai été amené à intégrer la liste de Xavier Colonne.
Donc, on arrive, on va faire un bond dans le temps. 95, moment clé, première élection. Alors, tu as été réélu plusieurs fois. Est-ce que celle-là, elle a vraiment une saveur particulière ?
Bien sûr. Bien sûr.
Sur toutes les élections, c'est vraiment celle-là que tu retiendras de...
Oui, celle que je retiendrai, celle que retiendront celles et ceux qui ont été élus avec moi en 1995, parce que c'était pas évident, c'était pas gagné d'avance. Et puis là, nous n'étions pas élus. Donc nous avons battu, mais battu démocratiquement bien sûr, une équipe en place. Et il est certain que le sortant a souvent, de par son expérience, une longueur d'avance, ce qui est tout à fait naturel, hein, quelle que soit la profession et quelle que soit naturellement les strates démographiques et démocratiques. Et oui, celle-ci a une saveur particulière, c'est celle que personne n'a oubliée. Et, j'ai encore des images naturellement plein la tête et de temps en temps, il nous arrive de les évoquer avec d'autres. Et nous les évoquions régulièrement avec quelqu'un dont je veux saluer la mémoire. Il y en a deux, mais bien sûr, le premier, c'est Jean Guillemach. Je souhaitais simplement évoquer sa mémoire parce que ça a été l'ami fidèle de tous les combats. Et nous étions élus ensemble en 83, avec René Baron aussi, à qui j'adresse toute mon affection. Et puis, dès 95 aussi, Alain-Charles Astoulf qui nous a quittés. Donc, c'était des amis fidèles, des soutiens fidèles, inconditionnels.
Ça fait partie des moments durs de ta carrière?
Oui, oui.
Si tu dois retenir un moment vraiment qui t'a marqué.
Ah oui, parce que le reste, il peut y avoir des échecs. Mais l'échec, ça passe, ça fait partie de la vie politique. Il faut pas s'attacher aux échecs, il faut pas s'attacher aux victoires. La première, oui, 1995, bien sûr. Et, cette mandature maudite 2014-2020, où nous avons vu disparaître trois de nos collègues, trois amis, hein, Éric Rochot, bien sûr, le plus jeune des trois, mon âge. Nous avions quatre jours d'écart, je crois. Je crois qu'il était né le 6 et moi le 10. Je devais le respect pour quatre jours. Enfin, voilà, on se chamaillait là-dessus, amicalement, bien sûr. Jean Guillemach, qui est le parrain de mon fils, et puis Alain-Charles Astolf, qu'on ne présente plus.
Est-ce que ça aurait pu jouer dans la balance sur le fait que tu ne portes pas?
Oui. Objectivement, oui. Oui, parce qu'on se dit que la vie passe très vite, que souvent on s'accroche, on se chamaille sur des points de détail que tout le monde a oublié le lendemain, mais que le plus important c'est la santé, le plus important c'est la famille, c'est les amis bien sûr, après c'est sa ville aussi, hein, parce que avec un raisonnement pareil, il n'y aurait pas d'homme politique, il n'y aurait rien, ce serait l'anarchie, mais ça compte. Puis on se dit que la plus grande vanité de l'homme, finalement, c'est de penser qu'il est immortel. Et de temps en temps, il y a des faits comme ça qui nous ramènent à la dure réalité. Personne n'est immortel, ça se saurait. Et ça veut dire qu'il faut gérer au mieux son temps. Et que oui, ça a fait partie de la réflexion, c'est un secret pour personne, qui a été alimenté, entre autres, par ces trois décès qui ont été cumulés. Il m'est arrivé de perdre un conseil municipal et ami, c'était la première mandature, c'était le pauvre Francis Albertini, voilà. Mais et après Louis Emmanuel, mais qui était plus en exercice, mais là trois, j'avoue que on se pose des questions.
Alors ensuite, on pourrait revenir sur un ton plus léger. Il y a 98, conseiller territorial, réélection en 2001, et alors là, il y a un passage qui est quand même assez important dans ta carrière politique, c'est 2004. Président de l'exécutif, c'est quoi? C'est un objectif? C'est une opportunité? Ça s'est présenté comme ça? Comment ça vient?
Alors, c'est pas du tout un objectif. Très sincèrement, mon objectif, c'était, maire, bien sûr, et de me dire, dans le canton de Calvi, c'est Calvi-Lumiaux. En général, lorsqu'on est maire de Calvi, il faut vraiment le faire exprès pour ne pas être conseiller général. Voilà, si on a le soutien de la population calvaise, Lumiaux à côté, même s'il y a un candidat au premier tour, ne peut pas, bien entendu, avoir un conseiller général. Donc mon profil de carrière, c'était ça, c'était se dire pour ma ville, maire, conseiller général, ça me va très bien. Les rencontres, c'est important dans la vie. On en décide autrement. En 95, tu l'as dit, je suis élu maire. En 95-96, je rencontre Jean Badjon, alors président de l'exécutif. Nous commençons à travailler ensemble pour les dossiers de Calvi. Je suis soutenu, les projets avancent. En 98, il s'est toujours plus à dire, je n'ai rien demandé à Ange, et Ange ne m'a rien demandé. Naturellement, je me suis retrouvé cinquième sur sa liste, donc élu à l'Assemblée de Corse. Très belle expérience. Et j'ai fait mon chemin politique. Jean Badjon avait souhaité arrêter sa carrière politique pour des raisons de santé et ne plus être candidat en 2004. Et tant de sa part que de la part de beaucoup de mes collègues élus, il a semblé que j'avais quelques prédispositions à pouvoir être président de l'exécutif. Mais autant je souhaitais être maire de Calvi depuis tout petit, autant jamais ne m'avait effleuré l'esprit un jour de présider aux destinées de la Corse. Jamais. Voilà. Donc ce sont les rencontres. 98, je ne répétais sur les de Jean Badjon, j'aurais été sûrement conseiller général en 2001. Alors qu'en 2001, naturellement, c'est Jean Guématch, hein, qui l'a été et qui a été brillamment élu. Et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est une belle expérience. Je mesure les difficultés d'aujourd'hui comme celles d'hier, surtout avec une collectivité unique. C'est une très belle expérience que je ne suis pas prêt de renouveler.
Ah.
C'est épuisant. Il y a beaucoup de responsabilités. Un désengagement de l'État, il faut le dire, de partout, y compris auprès de la collectivité territoriale, aujourd'hui la collectivité de Corse. Et donc, ce sont
donc
des moments-là
on est en
qu'il ne faut
période,
pas exercer trop longtemps.
On est en voilà. pleine période, justement, oui. de tergiversation, de discussion. Donc, tu nous annonces, tu ne seras sur aucune liste, du coup, au territorial.
Si, ah non, si j'avais voulu être sur une liste au territorial, je n'aurais jamais abandonné les territoriales. J'avais ma place sur la liste de droite en 2017. J'ai annoncé que je mettais un terme à ma carrière politique régionale. Nous avons présenté et soutenu Jean-Louis Delpoux, qui est devenu premier adjoint entre-temps et qui a été élu sur la liste de Jean-Martin Mondologne. Et aujourd'hui, Laurent Marcange, il me semble avoir le profil nécessaire pour assembler d'abord la famille libérale à laquelle j'appartiens et même au-delà. Nous avons déjà eu des discussions. Si j'avais souhaité être candidat, c'est pas un secret, hein. Sans doute aurais-je eu la troisième place sur sa liste, mais je n'irai pas. Par contre, Calvi sera bien représenté, pas la troisième place, mais sera bien représenté, on va dire, dans les 10 premiers, hein, pour que, en cas de victoire comme d'échec, eh bien, notre ville soit représentée à ce niveau-là pour chercher à faire avancer les dossiers.
Alors là, on arrive en 2005. Et 2005, alors là, on arrive sur un moment clé, premier échec. Qu'est-ce qui s'est passé? 2005, sénatorial.
Alors déjà...
Comment tu l'as vécu? Parce que bon...
Alors, je l'ai vécu de manière très philosophique, parce que là aussi, c'était pas du tout une ambition d'être sénateur. Il se trouve que c'est le sénateur de l'époque, notre regretté ami Paul Natal, qui avait été invalidé. Donc, son mandat avait été écourté, et c'était une élection sénatoriale partielle. Donc, il fallait un candidat. Nouvellement élu président de l'exécutif en 2004, vraisemblablement le mieux placé en Haute-Corse, hein, de par mes fonctions pour conserver ce siège à la droite. Là aussi, j'ai été sollicité tant par le niveau local, régional, que par le niveau national. À l'époque, c'était la droite qui était au pouvoir, pour conserver le siège, et on m'a demandé d'y aller. Entre autres, Nicolas Sarkozy, sur le plan national par exemple, mais aussi les soutiens locaux. Et donc, l'élection s'est jouée à un cheveu, puisque j'ai perdu de 18 voix au second tour contre François Vandade. Donc c'est 10 voix, hein, 10 voix qui basculent, avec, je dois le dire, la totalité des mouvements politiques contre moi, parce que, y compris sans doute chez moi. Hein, parce que l'élection sénatoriale, c'est terrible. Je le disais à notre ami Jean-Marie Seyité, c'est pas une élection normale, ce sont les grands électeurs, et c'est terrible. Voilà, il y a des coups bas, il y a des règlements de compte, donc j'en ai sans doute fait les frais, alors pas forcément à titre personnel, ou un peu aussi d'être personnel, mais je dois dire que comme ça n'était pas pour moi une ambition, non, un constat que c'est sans doute l'élection la plus difficile qui soit, un petit corps électoral, des élus, des égaux, des gens qui disent après tout pourquoi est-ce que moi j'aurais pas pu y aller à sa place, donc qui au lieu de soutenir leur famille politique vote pour faire chuter le leader de la famille politique, parce qu'à l'époque quand on présentait l'exécutif c'était moi un petit peu le leader de la droite en Haute-Corse. Enfin voilà, c'est une expérience humaine intéressante, aucun regret. J'étais déjà à l'époque président de l'exécutif et adjoint au maire de Calvi. J'avais pas beaucoup de temps pour faire autre chose.
Alors, on va faire un saut. On va faire un saut en 2020. 2020, triangulaire à Calvi.
Oui.
Alors, comment tu le prends, toi? Tu te dis, c'est 60 personnes se mobilisent et j'ai loupé un truc. Ça va être plus difficile. Comment tu l'as vécu ce...
Non, je
parce que c'est assez particulier, tu l'avais jamais vécu.
J'avais jamais vécu, je l'ai vécu sereinement. J'ai annoncé que nous serions élus au premier tour, nous l'avons été de manière tout à fait correcte, hein. Cinquième mandat, il y a aussi l'usure du pouvoir, et je pense que le fait qu'il y ait deux listes en face peut aussi témoigner de cette usure du pouvoir, de cette diversité qu'il faut prendre naturellement du côté au côté positif. Et lorsqu'on a en face 62 personnes au lieu de 31, eh bien il est certain que on ne peut pas faire les mêmes scores que l'on fait d'habitude, puisque à Calvi
il y a de l'érosion.
C'est normal. Et puis à Calvi, qui est un gros village, bon, beaucoup de gens se connaissent, beaucoup de gens sont apparentés. Il y a des électeurs qui, avec deux listes déjà, ont des parents sur deux listes. Là, qu'il y en avait sur les trois listes. Donc, on fait un peu plaisir à tout le monde. Mais c'est pas ça l'essentiel. C'était une campagne avec une certaine passion. Aujourd'hui, elle est derrière nous. Depuis le 15 mars, il y a une majorité. Il y a des oppositions, entre guillemets. C'est la démocratie. Il faut le prendre comme tel. Et je crois que maintenant, nous avons presque 6 ans encore, à condition que cette pandémie nous laisse tranquille pour avancer au service de Calvi. Mais c'est pas la seule commune de Corse ou d'ailleurs où il y a trois Ajaccio, il y avait 8 listes en présence, ce qui n'a pas empêché Laurent Marcangeli de l'emporter dès le premier tour avec 53% des suffrages, nous l'emportons avec près de 56% des suffrages. Bon, mais c'est une élection tout à fait normale, naturelle, lorsqu'il y a 5e mandat en jeu et 2 listes en face.
Alors là, on va aborder les questions qui fâchent.
Avec la petite musique qui va bien.
Avec la petite musique qui va bien, on va essayer de mettre un petit peu de pression. Ah. Je vais te demander, comme c'était une triangulaire, est-ce que tu peux me donner une qualité à chacun des opposants qui se sont confrontés à toi pendant la municipale?
Alors, je les connais tous les deux. C'est difficile de dire une qualité ou des défauts. Je dirais que, comme tout à chacun, ils ont un certain nombre de qualités, ils ont un certain nombre de défauts.
Attention, j'ai le buzzer, langue de bois.
Oui, non, c'est pas une langue de bois. Mais ce sont des gens honnêtes, tous les deux. Bah, ce sont des gens passionnés de leur ville. Ce sont des gens qui ont eu envie, à un moment donné, de mettre leurs compétences... pas tout le monde peut être compétent en tous les domaines, mais leurs compétences au service de leur commune, leur idée, parfois convergente à trois, parfois divergente, mais c'est la démocratie, en se tournant vers l'avenir. Voilà, moi je peux rien rajouter de plus. L'avenir nous dira comment les choses, chemin faisant, se font au service de notre ville, mais honnêteté, sans aucun doute, sérieux sans aucun doute.
Alors, ensuite... Deuxième question, les critiques. Oui. Les critiques, ça fait longtemps que tu es élu. En plus, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux.
Oui.
Donc, ce qui était dit dans les bars, maintenant, c'est au vu et au su de tout le monde. Comment on gère, comment on le vit?
Alors,
comment tu le gères, comment alors, tu le vis?
Alors, comment je gère, comment je le vis? On le gère et on le vit en fonction de sa sensibilité. Moi, de manière tout à fait distanciée, puisque je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, et je ne les lis pas. Pourquoi? Pour une raison toute simple. La relation avec le Café du Commerce, elle est parfaite. On parle. On parlait dans les bars, sur les réseaux sociaux. On se fait plaisir. Pas toujours. Souvent sous couvert d'anonymat, avec des pseudos. Moi, je crois au monde réel. Moi, je crois à la confrontation des idées. Et je crois à l'échange. On se connaît, toi et moi, on n'a pas forcément les mêmes idées, non. Mais il ne nous viendrait pas une seconde en tête l'idée de dire sur les réseaux sociaux quelque chose qui pourrait être de nature perfide, voire infamante. On se dit les choses, on n'est pas toujours d'accord, on est d'accord aussi, heureusement, voilà, sinon je serais pas là peut-être, mais on est toujours d'accord, on n'est pas toujours d'accord, mais on se dit les choses en face. Moi je crois au monde réel, je dis que lorsqu'on a des critiques à adresser, on les adresse. On interpelle le maire, il est à Calvi, il vit pas ailleurs, je suis 24 heures sur 24 à Calvi, presque 365 jours par an, j'ai le droit moi aussi à quelques jours de repos, où que ce soit, et pour autant, on peut ne pas être d'accord, on peut critiquer, mais ça se dit de manière posée, de manière non agressive, et surtout de manière correcte, courtoise, voilà, et sereine.
Alors, je vais avoir une question en deux fois, c'est la dernière question qui fâche. À la fin de ce mandat, on sera à 30 ans de règne.
Règne. Le règne, c'est lorsque
j'étais sur une liste d'opposition. Faut un peu que je crédibilise le truc aussi.
Le règne, c'est lorsqu'on détient un pouvoir divin. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je le tiens du peuple. Voilà. Donc, mais allez, ça fait plaisir. Considérons que ça fait 30 ans. Tout ce que tu veux.
Ça fera 30 ans. Est-ce que par moment, il y a pas un ras-le-bol? Alors, c'est humain, hein.
Bien sûr.
C'est,
mais bien sûr.
Il n'y a pas un ras-le-bol de se dire, ouais,
voilà, bien sûr.
Ça va.
Bien sûr. Ras-le-bol, bon, ce serait péjoratif, mais par moment, d'abord, c'est ce qui m'a, on en a parlé tout à l'heure, ce qui m'a fait hésiter à être un nouveau candidat, c'est ce qui m'a fait dire aussi, je veux bien repartir à la condition que la jeunesse, une partie de la jeunesse, bien sûr, hein, puisqu'il y a des opposants, et c'est normal, s'implique à mes côtés. Paris réussit, hein, puisque la liste a été renouvelée, il y a beaucoup de jeunes, il y a des jeunes qui ont envie de s'impliquer. Maintenant, mon objectif, c'est que, parlant de mon camp politique, hein, ces jeunes-là, petit à petit et progressivement, et certains ont déjà commencé, s'accaparent des affaires de la ville, pour que, dans 6 ans, nous puissions, à côté d'autres listes sans doute, présenter également une liste qui tienne la route, avec si possible les têtes de liste renouvelées.
Donc 2026.
Ah ben 2026.
Potentiellement tu te représentes.
Non, je me présente pas 2026 potentiellement. Ah, non, potentiellement, je dis qu'il faut renouveler une liste avec des leaders renouvelés.
Ah.
Voilà. Donc non, potentiellement, l'idée aujourd'hui, c'est de former des jeunes à la chose publique, de leur donner l'envie, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens capables, mais aussi des gens qui n'ont pas envie de s'impliquer. Voilà. Et ce qui est important aujourd'hui, alors c'est compliqué, c'est difficile, il y a de moins en moins d'argent, il y a de plus en plus de réglementations, il y a de plus en plus de contraintes. C'est ce qui entraîne des fois une certaine lassitude. Si ça part à le bol, il faut impérativement, et c'est mon objectif, s'agissant encore une fois de mon équipe municipale, mon objectif c'est que d'abord les jeunes prennent leurs responsabilités pendant cette mandature pour qu'ils puissent, soutenus par les anciens, dont moi-même, hein, présenter une liste tout à fait crédible en 2026.
Donc c'est le mandat du passage du relais.
C'est le mandat du passage du relais, ça me semble bien dit en ces termes.
Donc nous en avons terminé.
Après je suis pas un faiseur de roi, la population décidera en 2026.
Vox populi, vox dei.
Absolument, qui elle choisira de l'équipe municipale sortante ou d'autres équipes en lice. Hein.
Alors, on en a terminé avec les questions qui fâchent. On va faire un rapide questionnaire, on va terminer sur un rapide questionnaire. Alors c'est des questions qui sont assez courtes. Qui appelle des réponses assez courtes. Si Calvi était un trait de caractère, quel serait-il ?
Alors, un trait de caractère, ce serait assimilé avec la citadelle. Ce serait une ville forte.
Une ville forte. Donc, si Calvi était un défaut ?
Le défaut, c'est le... le défaut. Compliqué de donner un défaut à une ville. J'en trouve pas comme ça. Calvi n'a que des qualités.
Ah, d'accord.
Voilà.
Si Calvi était un animal... Moi, je peux t'en trouver des défauts. Si
ah, mais je sais pas, par exemple.
Si Calvi était un animal...
Calvi était un animal, ce serait Calvi est tourné vers la mer. Ce serait un poisson.
D'accord. Ton héros préféré de fiction et de la vie réelle.
Ah, de la vie réelle, Churchill.
Ah.
Voilà, ça c'est dit. Je trouve que c'est un personnage à qui l'on doit d'être aujourd'hui ce que nous sommes, hein, l'Europe, hein, qui a de surdire non, et non, y compris d'abord aux siens, en Angleterre, dont certains voulaient négocier avec Hitler une forme de reddition, une forme de neutralité, qui a su dire non, et qui a entraîné ensuite les alliés et la suite de l'histoire que l'on connaît, la Deuxième Guerre mondiale. Personnage de fiction, on va prendre dans la bande dessinée, que j'aime beaucoup, bande dessinée Lucky Luke, j'aime bien. Je les suis tous, y compris maintenant.
Alors, ce que tu détestes le plus chez les gens?
Ce que j'ai détesté chez les
gens.
Trait de caractère.
Chose qui pourrait vraiment
mais,
te...
Mais c'est un peu lié à ce qu'on disait sur les réseaux sociaux. C'est la perfidie, c'est la... Le fait d'être sournois, d'être médisant, de salir les gens alors qu'il n'y a pas lieu de les salir.
La chose dont tu serais la plus fière au moment de faire le bilan?
De ma vie ou municipale?
De la vie.
Bilan de la vie, mon fils, ma famille, mes petits-enfants. Voilà, le fait, je pense, d'être...
Tu as réussi à côté de cette vie qui est prenante, de t'accorder des moments?
Oui.
On arrive à s'accorder des moments quand on a des responsabilités.
On arrive, il faut que j'en accorde de plus en plus parce que j'ai 2 petits-enfants. C'est lié à mon âge, 61 ans. Voilà, donc il faut s'accorder effectivement des moments. Pardon. Et puis le fait d'avoir été bien éduqué par mes parents, par un père qui est parti à 70 ans, bon, jeune, hein, on sait de quoi l'on parle, et qui a été un modèle pour moi et auquel je pense, pas tous les jours, je mentirais, mais très régulièrement, y compris quand j'ai besoin de réfléchir à l'avenir.
Une phobie ?
La phobie, c'est avoir peur de quelque chose. Mmh. Non, rien de... Non, je peux pas dire que dans la vie, oui, on peut avoir la phobie que les siens... ah oui, alors s'il doit avoir une phobie en tant qu'être humain, c'est celle de voir partir les plus jeunes avant soi.
Oui, ça ne suit pas l'ordre des choses.
Ça ne suit pas l'ordre des choses. Ça, c'est une, ça peut être une phobie, mais je pense qu'elle est partagée par le plus grand nombre.
Alors, est-ce que tu as un livre de chevet ?
Non. Non, livre de chevet, non. J'ai pas beaucoup le temps.
Alors, certains de tes opposants, je fais un trait d'humour, oui, diraient les listes électorales.
Non. Oui, liste électorale pendant 3 mois, tous les 6 ans. Ça, c'est vrai. Mais bon, après, non. Non. D'ailleurs, lorsque j'achète un livre, je regarde d'abord comme une page il a. Parce que si c'est 1000 pages, je sais que il me faut...
oui, oui. T'es un peu feignant.
Non, parce que j'ai pas le temps.
Ah, t'as pas le temps. Voilà, d'accord.
Pendant la journée, je n'ai pas le temps. Après, il y a des émissions aussi souvent intéressantes à la télévision. Le petit moment de lecture, c'est...
Tu regrettes
peu...
de passer à côté de certaines de ces choses-là, de
oui,
ces...
Oui, je regrette, mais après, c'est la vie, je veux dire, hein. Il y a aujourd'hui, notamment sur les tablettes ou les téléphones, un certain nombre de magazines auxquels je suis abonné, enfin, de magazines de quotidien, et de magazines auxquels je suis abonné. Il y a déjà cette lecture-là au quotidien. On peut citer Le Figaro, par exemple, mais aussi d'autres, ou Les Échos, hein, qui me prennent déjà un certain nombre de moments dans la journée, et ça, c'est au fil de l'actualité. Donc, hélas, je n'ai pas trop de temps pour lire. Il m'arrive même d'acheter des livres, de commencer à les feuilleter, puis voilà, de plus savoir après où j'en suis.
Alors, on va faire un rapide, et puis on va pas tarder à clôturer. Dans les tu préfères penser ou ressentir ?
Ça va un peu de pair, mais penser.
Les SMS ou appeler ?
Appeler.
Le lundi ou le vendredi ?
Ça m'est indifférent, mais le lundi, c'est bien, parce qu'on se dit, tiens, une semaine qui commence, on va faire des choses.
Plutôt chien ou chat ?
Chien.
Agir ou penser ?
Ah. Comment peut-on agir sans penser ?
Travailler tôt ou travailler tard ?
En général, la vie fait que si on veut vraiment s'appesantir sur ce que l'on fait, il faut à la fois commencer tôt et finir tard, plutôt tard.
Se dépasser ou dépasser les autres ?
Se dépasser.
Écoute, Ange, moi, je te remercie. Je te remercie.
Merci à toi. D'être très intéressant. Tes questions l'étaient tout autant.
Chers auditeurs, soyez bienveillants. C'était la première. Je vais clôturer sur une petite, je sais que tu aimes bien l'humour, sur une petite blague municipale. C'est Jésus qui arrive à Calvi, dans un bar, et il voit un bossu. Et il le touche. Et ce monsieur se redresse. Incroyable. Il arrive à la deuxième table, il y a un aveugle. Jésus le touche, il voit. Et au fond du bar, il y a un employé municipal qui boit son café. Il va pour s'approcher, pour le toucher. Il dit, non, sors-moi de là, hein, moi je suis en arrêt maladie. Non. Bon, c'est un trait de caractère.
Il y a des gens en arrêt de maladie à la mairie, comme il y en a de partout. Oui, non,
non. C'est un peu les choses qu'on dit partout en France d'ailleurs,
hein, oui, sur France, à commencer par les fonctionnaires d'État.
Voilà.
Après, bien sûr, c'est un trait d'humour. Il faut quand même pas oublier tout le travail qui est accompli par la grande majorité, très grande majorité des employés municipaux. Il y en a qui se lèvent très tôt le matin. Ils sont dans les rues, notamment pendant la période de pandémie. Il faut pas oublier de leur rendre hommage parce que les rues de Calvi étaient nettoyées, désinfectées et ils attaquaient très tôt le matin, protégés bien sûr. Après, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle.
Alors, avant de passer à la chanson que tu as choisie. Moi, je voulais faire un message personnel, souhaiter un bon anniversaire à mon meilleur ami, Paul Souzogne, voilà. Des fois, on mérite souvent ses ennemis, mais pas ses amis, donc c'est son cas, donc je l'embrasse très fort.
Et moi, je me joins pour lui souhaiter également un très joyeux anniversaire.
Donc, la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, c'est à vérifier, nous recevrons Jérôme Cévéon, et nous allons passer une musique que tu as choisie, qui est...
Ah, c'est moi qui dois le dire, pardon.
Ah oui.
C'est alors j'ai deux genres musicaux que j'affectionne particulièrement. c'est pas contradictoire, mais ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, c'est le jazz et l'opéra. J'aime beaucoup l'opéra et j'ai choisi de l'opéra Tosca, bon, l'un des airs les plus célèbres, qui est « Eluce Even le Stelle ».
Ange, je te remercie.
Merci.
Et chers auditeurs, à bientôt. Merci beaucoup.
Tra le braccia